Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Nicolas Aignon se décrit comme un explorateur et transmetteur passionné. Il accompagne les entrepreneurs dans leur développement personnel et professionnel, car le travail sur soi est très étroitement lié à notre vie professionnelle, et ce, particulièrement chez les entrepreneurs. Quels sont ces liens entre développement personnel et professionnel pour un entrepreneur? Et en quoi entreprendre est-il un prétexte au développement personnel? Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Nicolas, merci de te prêter au jeu de ce nouvel épisode du podcast consacré à un sujet passionnant. Il y a beaucoup de contenu, que ce soit des podcasts, des vidéos, des blogs, etc., dédiés à l'entrepreneuriat qui aborde le sujet du développement personnel. Et selon moi, c'est une preuve tangible qu'il y a un lien véritable entre les deux. Et l'entrepreneur qui se reconnaîtra, qui nous a mis en relation, me parlait, quand je lui posais la question de ses potentiels regrets par rapport aux différents pivots qu'il a fait, de sa courbe d'apprentissage vraiment exponentielle qu'il a connue via l'entrepreneuriat, et aussi du coup des aspects que ça a eu sur son développement personnel. Et du coup, comme toi, ton positionnement est assez clair sur l'accompagnement d'entrepreneurs, c'était tout naturel de te proposer ce sujet qu'on a défini ensemble, donc qui est l'entrepreneuriat comme prétexte à du développement personnel. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avant qu'on aborde plus en détail ce sujet?
Bien entendu, oui. Bonjour Lydia, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast Le Cocon. Alors, quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Aignon, ça fait 10 ans que je vis 2 vies différentes, une vie d'entrepreneur et de mentor et coach pour entrepreneurs, et puis une vie de développement personnel, et petit à petit j'ai réconcilié ces 2 vies. Du côté des entrepreneurs, pour situer un petit peu mon terrain de jeu. J'accompagne des startups principalement, enfin des boîtes technologiques en général, qui sont à quelques centaines de milliers d'euros de développement, des équipes en gros d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et pendant quelques années, je les ai aidés à mettre en place un état de flow, c'est-à-dire un état d'hyper-concentration, d'hyper-productivité dans l'équipe, entre autres en utilisant les méthodes agiles. Et depuis un peu plus de 4 ans maintenant, je les accompagne sur le côté commercial, à développer une offre impossible à refuser et à créer la conversation de vente qui va avec.
Voilà. Génial.
Pour une grosse centaine, 150 entreprises, grosso modo, en 10 ans.
Top. Et donc, si on commence par un angle assez large par rapport au sujet, mais comme dans le sujet, on parle de prétexte, je vais te poser la question, est-ce qu'il faut forcément un prétexte pour faire du développement personnel, sans forcément l'appliquer à l'entrepreneuriat?
Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il faut forcément un prétexte? Moi, je suis assez... Pour moi, on a 2 moteurs de changement. Et un moteur qui est éviter la souffrance et un autre moteur qui est aller vers une vie ou une situation qui soit plus sympathique que celle qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, je pense que derrière chacun de ces 2 moteurs, il y a souvent un prétexte. Il n'est pas toujours très conscient, par contre.
Ok.
Mais je pense qu'il y a quand même la plupart du temps un prétexte. Et quand il n'est pas conscient au départ, je trouve qu'il se révèle a posteriori. On se dit « Ah, mais c'est pour ça que en fait, j'ai dû traverser ça » ou « C'est pour ça que j'ai été amené à creuser tel ou tel sujet. » C'est parce qu'il y avait cette emmerde ou ce potentiel qu'il y avait dans ma vie et que je n'avais pas du tout détecté et qui s'est révélé après.
Ok. Donc finalement, c'est soit avec le temps qu'on a cette prise de conscience, soit parce que sur le moment, on a, c'est ce que j'avais plus en tête, ce qu'on peut appeler les accidents de la vie, qui font qu'à un moment donné, on est face à un mur et on est obligé du coup de se poser ces questions-là.
Voilà.
Et du coup, si là, on rentre dans le sujet de notre discussion qui est par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que tu considères que le développement personnel dans la sphère de l'entrepreneuriat et finalement développement personnel dans toute sa globalité, donc moi je résume à finalement essayer d'être une meilleure version de soi-même, ou est-ce que c'est un développement personnel qui est orienté plus business avec du coup des sujets un peu plus cloisonnés?
À mon avis, c'est un peu plus limité.
Okay.
Moi, si je donnais ma définition du dev perso, c'est prendre soin de ses besoins. En prendre conscience et en prendre soin, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel. Et je constate que, en tout cas, dans l'immense majorité des boîtes que je croise, le développement personnel est beaucoup plus du développement personnel qui va aller traiter les sujets psychologiques et les besoins psychologiques que les besoins physiques ou spirituels. Mais je constate aussi que chez les entrepreneurs qui ont pris conscience du fait qu'en fait c'était leur entrepreneuriat était une expérience de dev perso, une fois qu'ils ont bien nettoyé le côté psychologique, ça les amène à se poser pas mal de questions sur le reste de leur vie, entre autres le rapport qu'ils ont avec leur corps et le rapport qu'ils ont avec la spiritualité. Et c'est vraiment une deuxième étape.
Ça te parle, d'accord, en fait c'est un peu comme strat, comme si on commençait par la strat de base qui est psychologique et après une fois qu'on atteint un certain état, on passe à la suite.
On peut voir ça comme ça. Ouais, je suis pas sûr que ce soit un chemin. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, je constate que la plupart du temps, c'est un développement personnel qui est plutôt subi. C'est-à-dire que les accidents de la vie ont une plus grande intensité ou plus grande densité dans la vie entrepreneuriale. Et du coup, c'est rarement délibéré en fait de la part, en tout cas, des entrepreneurs que je rencontre. La plupart du temps, juste ils sont confrontés à pas mal de galères, pas mal de peurs, etc., qui vont les secouer sur des sujets qui sont des sujets assez typiques de développement personnel, même si ces entrepreneurs n'en sont pas conscients. Et donc, soit ils choisissent l'évitement et puis ils mettent ça sous le tapis. Et puis bon, on n'en parle plus. Et puis ça, en tout cas, on n'en parle plus pendant un temps et ça va leur répéter à la figure un peu plus tard. Soit ils choisissent de s'attaquer au sujet et là, ça les fait traiter plutôt les sujets psychologiques en premier.
Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, en fait, toi, tu considères que tu as plus une casquette, on va dire, de coach business ou comme tu peux être amené après à aller sur d'autres sujets, il y a aussi un peu le côté coach de vie. Enfin, je ne sais pas si toi, tu distingues les deux et si tu trouves que c'est pertinent de le distinguer.
Ah, j'ai cloisonné pendant très longtemps les deux parce que j'avais peur du jugement. Enfin, je suis allé très loin en développement perso, à aller fouiller des approches assez perchées, des approches énergétiques, à faire des choix dans notre vie. Enfin, nos deux derniers enfants sont nés à la maison, ce qui pour moi est aussi un parcours de développement personnel. On a déscolarisé nos enfants, ce qui est aussi pour moi un parcours de développement personnel. Et on a fait des choix. Du coup, enfin, ça, c'est des choix qui sont assez clivants, en fait. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai eu peur d'être pris pour un fou par mes clients en ayant osé faire ces choix-là. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai cloisonné, mais de façon assez épaisse, toutes mes recherches côté dev perso, dans la vie privée, et ce que je creusais dans le business. Et puis petit à petit, j'ai ouvert des petits sas entre les deux, et là, je constate aujourd'hui que mes clients qui ont eu les transformations les plus importantes, finalement, là, je ne suis plus trop capable de faire la séparation. C'est devenu des amis ou... Enfin, où on a une relation qui est presque aussi proche que des amis pour certains, et du coup la cloison est beaucoup plus difficile à dessiner, enfin il n'y a plus de cloison en fait.
Wow,
et voilà, donc et clairement ce process là pour moi a été un process de dev perso aussi, enfin, le fait d'aller dépasser cette peur du jugement. Je me suis rendu compte juste que l'activité que j'avais dans mon boulot m'appelait, enfin je me confrontais à cette peur et que ça m'appelait à aller la faire sauter d'une manière ou d'une autre.
Et justement, ça tout à fait. Et justement, par rapport à toi, ton propre parcours en tant qu'entrepreneur ou ceux que tu accompagnes, tu disais tout à l'heure que voilà, souvent c'est des accidents de la vie qui les amenaient à aller sur ces sujets-là. Mais au-delà des accidents de la vie, pourquoi, selon toi, l'entrepreneuriat est particulièrement propice à justement faire du développement personnel?
C'est très large. Hein. Enfin, ouais, c'est hyper large. Tu parlais tout à l'heure de la meilleure version de nous-mêmes. Dans ta définition du développement personnel, c'est aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Ok, et je me reconnais pas mal là-dedans, ça me va bien. J'ai remarqué que la meilleure version de nous-mêmes, la plupart du temps, elle n'est pas vraiment dans notre zone de confort actuelle, elle est plutôt en dehors de notre zone de confort. Mmh. Ça te parle ?
Oui, tout à fait.
Zone, ouais. Et j'ai remarqué aussi qu'à la frontière entre notre zone de confort et notre zone d'inconfort, on avait souvent tout un ensemble de peurs qui faisaient une belle membrane. Et donc j'ai fait ce constat-là d'un côté, et ça c'est vrai côté vie perso ou côté vie pro, et j'ai fait d'un autre côté le constat que dans ces peurs, qui servent de membrane du coup entre la zone de confort et la zone d'inconfort, on retrouve assez souvent les mêmes sujets qui sont les peurs de manquer, peur de l'échec, peur du jugement, peur de déranger, peur de perdre le contrôle, peur du conflit, Et j'en oublie peut-être, mais je pense que ça, on a quand même déjà un bon podium avec ça, un bon,
oui.
une bonne liste. Et que ces peurs-là, si je devais résumer la vie d'un entrepreneur, j'ai quand même l'impression qu'une bonne partie de l'entrepreneur... Alors après, j'ai peut-être un prisme que je vais détailler après, parce qu'il se trouve que je ne m'adresse pas à n'importe quel type d'entrepreneur. Mais ça, je vais en parler juste après. Mmh. J'ai juste l'impression que la plupart des entrepreneurs passent une bonne partie de leur vie à se battre contre ces peurs-là. Et s'il fallait que je donne une autre définition du développement personnel, c'est finalement attaquer ces peurs-là et les tacler. Quoi. D'où ma conclusion que finalement, l'entrepreneuriat est un super terrain de jeu, la plupart du temps, pas très conscient, mais en tout cas un super terrain de jeu pour affronter ses peurs et donc pour faire du développement personnel purement et simplement.
C'est ça que tu appelles le tunnel sombre, quand je regardais...
Le tunnel sombre, c'est... Le tunnel sombre, c'est dans une image que j'utilise qui est... Donc c'est lié aux différentes transformations. C'est lié à l'image de la chenille et du papillon. C'était lié à ça quand tu l'avais dans la vidéo
Je l'ai vu sur un post LinkedIn qui était une vidéo d'apnée.
Ah oui, effectivement. Ouais, excellent. Ça y est, je le remets. Ouais. La part sombre, si je l'utilise avec une image qui est peut-être plus facile à comprendre quand on n'a pas vu la vidéo, c'est qu'on a dans chaque phase de transformation qu'on vit, en tout cas de mon ressenti, on a une phase de chenille, donc c'est la version avant, et puis on a une phase où on va se créer son cocon.
C'est chouette justement ce que j'allais dire, oui, qu'on parle de cocon.
Oui, effectivement, c'est pas mal. Et moi, c'est une image qui me parle depuis que j'ai compris cette image-là, elle m'accompagne tout le temps, quoi. On a une phase de cocon et du coup, depuis toujours, je savais que la chenille se transforme en papillon, je savais que ça passait par une phase cocon, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question de ce qui se passait dans le cocon. Et j'avais comme l'impression que, les petites pattes de la chenille se transformaient en petites pattes du papillon et que le corps de la chenille se transformait en corps de papillon, puis qu'il y a des ailes qui sortaient, etc. Alors, ce qui se passe, c'est beaucoup moins glamour que ça, et je trouve ça vraiment magnifique, en fait, c'est que la chenille, une fois qu'elle a fait son cocon, elle se liquéfie, elle se transforme en une espèce de bouillie innommable, de mixture qui ressemble à rien du tout. Et donc, c'est pas du tout une chenille qui devient un papillon, c'est une chenille qui devient une bouillie qui ressemble à rien. Et à l'intérieur de cette bouillie qui ressemble à rien, il y a quelques cellules qui ont un joli nom qui s'appelle les cellules imaginales, qui sont en charge, qui sont une espèce de cellule souche du papillon, et c'est elle qui recrée le papillon à partir de la bouillie.
D'accord.
Et ce que je trouve beau dans chacune des transformations, quand j'ai découvert cette métaphore-là, la personne qui me l'a transmise m'a dit « Mais regarde, fais un petit peu regarde dans le rétro de toutes les transformations que tu as vécues, vraisemblablement, à chaque fois tu es passé par une phase bouillie avant de devenir papillon. »
D'accord.
Et effectivement, moi, quand je revois les principales transformations que j'ai vécues, il y a eu des phases bouillies qui ont été courtes ou qui ont été longues, parfois plusieurs années, avant d'accéder à la nouvelle version de moi-même ou même la nouvelle version de ma boîte, quoi. Et je trouvais ça extrêmement parlant. Ça résonne, hein, cette...
Oui, mais alors c'est hyper intéressant parce que justement, quand je réfléchissais aux raisons qui font que l'entrepreneuriat est propice au développement personnel, je mettais en parallèle le processus d'itération des startups avec le processus humain, finalement, quand on est face à des échecs, etc. Et là, dans l'image que tu mentionnes, finalement, c'est même pas de l'itération parce que pour moi, l'itération, c'est quelque chose d'incrémental. Alors après, on peut repartir de zéro, mais en général, on passe pas par une phase, on va dire, de néant où on remet tout à plat, qui est plus là l'image qui me vient quand j'écoute ton histoire.
Ouais.
Et du coup, finalement, j'avais fait un parallèle avec les deux qui se justifient plus ou moins, parce que c'est pas la même évolution, je trouve, du coup.
Il y a des ampleurs différentes. Il y a des par exemple pour une startup, je suis vachement très très lié au milieu startup, du coup je vais prendre des images dans ce milieu-là pour le côté professionnel. La plupart du temps, quand une startup fait un pivot, c'est-à-dire quand elle change de positionnement, soit elle change de produit, soit elle change de cible, soit elle change de business model, pour faire simple, on va avoir une phase de flottement très inconfortable. Pendant laquelle tous les repères de la boîte explosent en vol, toutes les hypothèses de la boîte explosent en vol, toutes les certitudes explosent en vol, et il y a une phase de mou pendant laquelle la motivation est assez dure à trouver parce qu'en fait on ne sait plus du tout où on va, on ne sait plus du tout qui on est, à quoi on ressemble, etc. Et ça, c'est exactement la phase bouillie. Ça peut durer longtemps, ça peut durer une semaine, un mois comme un an ou deux, ça peut même tuer la boîte en fait si ça continue. Et puis on a des phases qui sont beaucoup plus courtes. où on va avoir une phase bouillie, enfin juste une prise de conscience qui va nous mettre dans notre cocon, on a besoin de digérer un tout petit peu la prise de conscience, et deux jours plus tard, on a la révélation, le chemin de sortie est juste évident et c'est magnifique. Tu vois, enfin, c'est magnifique dans les deux cas, mais c'est plus ou moins long et plus ou moins profond. Et je voudrais revenir sur un point par rapport à la peur, etc. Une grosse différence entre les chenilles et nous, c'est que la chenille, en fait, elle n'a pas le choix. Une fois qu'elle est dans le cocon, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne redeviendra jamais chenille, que ça ne dépend pas d'elle. Hein. Ça va se faire malgré elle. Ça, c'est une énorme différence avec nous et avec les entrepreneurs. C'est que quand on se retrouve en mode bouillie, nous, en tant qu'être humain ou en tant qu'entrepreneur, on a malheureusement le choix. Et c'est tellement flippant de se retrouver dans cette bouillie la plupart du temps qu'une grande partie des gens, une grande partie des entrepreneurs préfèrent en fait retourner au stade chenille, soit exactement le même stade chenille, soit faire 2-3 modifications un peu cosmétiques et se donner l'impression d'être devenu un papillon alors qu'en fait ils sont juste revenus chenille avec des antennes de millimètres plus longs ou des pattes de millimètres plus longs. Tu vois l'image ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait finalement c'est pas un vrai pivot.
C'est un faux pivot.
Il change quasiment rien. Et c'est ça, je pense, qui fait que ceux qui arrivent à passer outre leur peur et à faire une véritable transformation vivent après coup le pivot comme un instant génial qui leur a permis de se recentrer et d'être encore plus en cohérence avec ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est vrai que c'est souvent l'image que donnent les entrepreneurs quand ils parlent a posteriori. Parce qu'effectivement, sur le moment, c'est assez douloureux, mais a posteriori, c'est un moment qu'ils apprécient.
C'est libératoire. Et le parallèle que je peux faire, j'ai beaucoup creusé côté dev perso dans ma vie perso, du coup. Enfin, c'est d'ailleurs ce mot dev perso, mais j'utilise de plus en plus la notion de développement personnel professionnel parce que le dev perso fait passer le message que ça concerne la vie perso, alors que ça me paraît un peu limitant. Quoi. Donc, bref, dans dev perso, dans ma vie perso, j'ai creusé des. Du coup, je me suis entraîné en fait à identifier et à dépasser mes peurs. C'est devenu même mon mode de vie, c'est devenu mon espèce d'étoile polaire. Hein. Et entre autres, donc j'ai essayé beaucoup de techniques différentes, des techniques qui sont plutôt lentes et des techniques qui sont extrêmement rapides. Et j'ai entre autres essayé les techniques qu'on appelle des techniques de libération émotionnelle, qui permettent d'aller identifier, non pas effacer, la peur à un niveau plutôt haut, c'est-à-dire dans la tête, etc., dans mon mental, mais aller effacer la racine de la peur dans mon corps et dans mon cerveau le plus reptilien. Et ça s'appelle les process de libération émotionnelle, et donc déjà, je témoigne du fait que ça existe et que c'est incroyablement puissant, et je constate aussi qu'une fois qu'on a passé, ça aide vraiment à juste exploser ce mur de la peur. Quoi. C'est pas le contourner, c'est pas l'amadouer, c'est pas les Américains qui m'ont formé, ils utilisaient une expression qui était autour de dompter le cobra de la peur. Quoi. C'est beaucoup plus puissant que ça, c'est vraiment juste dynamiter la peur. La sensation qu'on ressent après, c'est exactement effectivement cette sensation des entrepreneurs après un pivot qui a porté ses fruits. On a juste l'impression d'avoir grandi de 3 tailles. Quoi. Enfin, quand tu parlais d'accéder à la meilleure version de nous-mêmes, c'est vraiment très impressionnant. C'est comme si on avait avant une paroi de plexiglas devant nous, complètement invisible, qui nous empêchait. Là. Tu vois, en t'en parlant, je pose la main devant moi, comme si j'avais la main sur cette paroi. Mmh. Et cette paroi explose. Alors, selon les méthodes, ça demande qu'on ait pris conscience de ce qu'il y avait dans la paroi ou juste on peut l'exploser même sans en avoir pris conscience. Et du coup, du jour au lendemain, tu arrives à passer la main à travers. C'est très, très impressionnant. J'ai fait péter ma peur du jugement comme ça, ma timidité. Enfin, c'est vraiment assez bluffant. Quoi. Et je rejoins effectivement ce que tu disais sur les entrepreneurs qui pivotent et avec une sensation de libération, une sensation de plénitude après qui est assez grisante.
Et du coup, malgré tout ça, pourquoi, enfin selon toi, le développement personnel est délaissé par une majeure partie, ou en tout cas une bonne partie des entrepreneurs ?
La première réponse qui m'est venue, c'est que le fait d'envisager le développement personnel fait peur en soi. Ouais. Et du coup, on va déjà taper sur la limite de la zone de confort, et on a déjà ce que moi j'appelle la petite voix, c'est-à-dire notre vigie intérieure, ou plutôt notre saboteur intérieur, c'est-à-dire le programme qu'on embarque à l'intérieur de nous qui est câblé pour résister au changement quoi qu'il arrive, qui est notre programme de survie au niveau du cerveau reptilien qui, dès qu'il entreaperçoit un changement d'habitude ou un changement de contexte, crie au danger et allume toutes les alertes rouges, etc. Et il dit, surtout pas, t'avises pas à jouer à ça. Et donc, juste pour l'immense majorité des... moi, je m'adresse beaucoup à des ingénieurs. L'immense majorité des ingénieurs, développement personnel, c'est un gros mot. C'est associé à tout un tas de psychologiques perchés, etc., qui n'ont aucune rationalité dans leur monde. Et du coup, leur petite voix se met en branle-bas de combat. Elle se met déjà en branle-bas de combat naturellement. Alors, en plus, ils ont cette surcouche d'ingénieurs rationnels qui fait monter dans les tours. Et du coup, c'est vachement plus confortable, en fait, de faire comme si on n'en avait pas besoin, ou de faire comme si on pouvait s'en passer, ou faire comme si les problèmes n'existaient pas, et de juste laisser la peur que ça nous inspire nous limiter. Ça me paraît être un bon gros obstacle. Peut-être deuxième obstacle, c'est que il y a un petit conflit de ma perception. Beaucoup d'entrepreneurs commencent leur parcours entrepreneurial pour des raisons qui ne sont pas vraiment les bonnes. Beaucoup d'entrepreneurs commencent leur parcours pour, en gros, se libérer de l'autorité, si je le fais très très court, pour aller vivre leur vie à eux, pour dire fuck à leur patron, pour vivre la vie dont ils ont envie, plutôt que la vie qu'on a décidée pour eux, etc. Ok, c'est louable tout ça. Mais en faisant ça, on n'attaque pas les vrais sujets. Concrètement, on n'attaque pas les peurs. Ou on les attaque vraiment par la bande et de façon plutôt légère. Et du coup, il y a toute une période d'état de grâce pendant laquelle la boîte n'est pas forcément rentable, pendant laquelle on n'a pas forcément encore trouvé l'adéquation entre notre produit et notre marché, pendant laquelle on est encore aux acédiques, etc., enfin à Pôle emploi, et pendant laquelle, en fait, on peut tricher, quoi. Et donc on peut éviter de se confronter à nos peurs beaucoup plus fondamentales, notre fameuse peur de manquer, peur du jugement, etc., et on peut faire comme si on voulait les mettre sous le tapis. Et donc pendant toute cette période-là, pendant laquelle les entrepreneurs trichent souvent, avec la réalité de ce sur quoi ils ont vraiment besoin de bosser, on peut se permettre de ne pas faire de dev perso du tout, quoi. On peut se permettre d'ignorer tout ça assez superbement, parce qu'on est dans le bac à sable, quoi. On n'est pas encore en train de jouer la vraie vie de l'entrepreneur, c'est-à-dire monter une vraie boîte rentable, quoi. Pas une boîte financée par Pôle emploi ou par une mini levée de fonds qu'on a réussi à faire.
C'est hyper intéressant, parce que du coup, ça veut dire que selon toi, les boîtes qui peinent à démarrer ou qui potentiellement démarreront jamais, c'est parce que les personnes ne se confrontent pas à leur peur et pas parce qu'ils n'ont pas le fameux why dont on parle beaucoup, la raison d'être. Pour moi, c'est plus ça qui manquait.
Mais il y a les deux. Pour trouver le why, moi je simplifie sans doute assez fort le why en disant qu'on a une mission en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. C'est pareil, enfin, je vois vraiment l'entreprise comme un organisme vivant, du coup je... Mm-hmm. Tout ce que j'ai travaillé en développement perso sur les individus, c'est à mon avis transférable sur les boîtes. Enfin, j'ai pas encore vraiment trouvé de limite sur la boîte en tant qu'organisme vivant. Et donc, on a tous, soit en tant qu'individu, soit en tant que boîte, une mission, c'est-à-dire des gens à aider. C'est comme ça que je le résume. Des gens à aider. C'est ça, le why. C'est pour ça que dans les accompagnements que je fais, quasiment le point de départ à chaque fois, c'est d'aller expliciter de façon très, très, très précise qui la boîte aide, quel genre de douleur ont cette personne, quel genre de résultat on leur permet d'atteindre, etc. Et pour trouver ces gens qu'on est prêt à aider, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Il faut aller parler à des gens. Il ne faut pas construire un produit. Il faut pas rester des mois ou des années tout seul dans son open space ou son bureau à aller coder le plus beau produit de la Terre. Il faut juste aller oser parler à des gens. Et je constate, une fois plus toujours dans cette catégorie plutôt ingénieur avec qui je travaille, que souvent, leur début de parcours, c'est 6 mois enfermés dans leur chambre, enfin 6 mois enfermés dans leur appartement ou dans leur incubateur, aller coder le plus beau produit du monde, mais surtout, surtout pas aller en parler avec des vrais gens, de peur de se faire voler l'idée, de peur de se faire juger, de peur de se faire bâcher. Je parle que de peur, là.
Mm-hmm. Ça te parle, donc, en fait, ça fait que ce sont leurs peurs qui les empêchent de trouver leur why.
Voilà. Bon résumé.
Ok. D'accord. Okay.
C'est pas toujours les mêmes peurs, on n'a pas toujours tous le même frustromètre, mais si on va aller voir la peur de manquer, la peur du jugement, la peur de déranger, les peurs que je te listais tout à l'heure, à peu près sûr d'être dans le mille sur au moins une des peurs.
Et est-ce que du coup, alors toi c'est assez particulier parce que tu t'accompagnes plutôt les entrepreneurs ingénieurs et tu disais que tu as quand même des patterns qui reviennent dans les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu dirais qu'il y a quand même un profil type pour entreprendre et entreprendre, alors j'aime pas forcément ce mot, mais avec succès?
De mon ressenti, qu'ils en soient conscients ou pas, ceux qui avancent vite et bien.
Oui.
C'est-à-dire, enfin, si je me risque à une définition de l'entrepreneur à succès, ça va être quelqu'un qui crée puis développe une boîte qui correspond à ce qu'il a dans les tripes, plutôt que ce à quoi...
Alors, la valeur de sa boîte ou son chiffre d'affaires, etc.
Voilà, ouais. Ouais. Et après, une boîte à plus ou moins fort impact, mais pour moi, les entrepreneurs que j'admire, c'est ceux qui garde dans le temps une boîte qui est 100% alignée avec ce qu'ils ont dans les tripes, même si moi je ne suis pas forcément aligné avec ce qu'eux ont dans leurs tripes. Okay. D'accord, ça, je ne juge pas forcément ça. Mais en tout cas, j'admire ces personnes-là, il n'y en a pas 50, je trouve, qui arrivent à rester d'un alignement assez magnifique. Et donc, ces personnes-là, je pense que dans les patterns, enfin dans les caractéristiques, les traits de caractère, etc., on a une capacité, ou au moins une volonté de se remettre en question à très haute dose, de cultiver un espèce de doute permanent, de bien comprendre que les certitudes n'attendent qu'à exploser en vol pour être remplacées par ce qui ressemblera à la certitude suivante. Ce qui va souvent, de mon ressenti, avec relativement peu d'ego.
Oui.
Et relativement peu d'attachement. Il y a dans les mentors américains qui m'ont accompagné, il y en a une belle expression qui m'ont transmise, c'est le high intention, intention très très haute, intention maximale, et low attachment, un attachement minimum. D'accord. Et ça va être ça très vrai pour moi. J'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des entrepreneurs en lancement. Maintenant, j'accompagne plutôt des entrepreneurs qui sont autour du million d'euros de chiffre d'affaires, donc plus avancés, qui ont déjà prouvé la valeur de leur solution, etc. Mais dans les centaines d'entreprises que j'ai accompagnées, qui étaient dans leurs premières années, dans leurs premières centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, il y avait un attachement à leurs produits, mais qui était maladif. Et c'était leur bébé, enfin, c'était vraiment de cet ordre-là. Hein. Plutôt que de considérer juste son produit comme un prétexte, aller discuter avec des gens, trouver une bonne vieille douleur à résoudre et résoudre cette douleur, même si ça ne correspondait pas du tout à notre produit initial, on avait un attachement viscéral au produit et à protéger ce produit-là. Et donc, je résume ça, enfin, cette compétence-là, cette capacité-là, je la résume dans un mot qui est coachable. Non, que les gens, d'accord, se fassent coacher ou pas, mais juste coachable, ça veut dire je suis prêt à entendre ce que d'autres vont me dire, je suis prêt à faire taire ma petite voix qui va me dire en permanence oui mais mon cas est différent, oui mais si c'était vrai ça se saurait, oui mais mon cas est particulier, etc. Et pour moi, les entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs qui sont soit nés coachables, soit qui apprennent à le devenir.
D'accord.
Ça répond à ta question.
Ouais, ça répond totalement. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la relation à l'ego quand on est entrepreneur et d'accepter de se prendre les bâches dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, du coup, les accepter, ça veut aussi dire du coup ne pas souffrir quand on se les prend, être juste ouvert au fait qu'il y a des choses qu'on n'ait pas fait correctement et du coup que ce soit dans notre intérêt de les changer. Et c'est hyper intéressant que tu parles du fait que maintenant tu accompagnes plus des entrepreneurs qui sont plus avancés, parce que je me posais la question, toujours par rapport à notre sujet, de finalement, est-ce que ton niveau de développement personnel va évoluer de manière concomitante à ton niveau de développement de ta startup? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a un moment où, si tu n'es pas suffisamment avancé dans ton développement personnel, tu vas avoir des blocages qui vont se retrouver dans ta startup et vice-versa, et que finalement, tu ne peux pas en être à un certain point de succès par rapport à la façon dont on a défini le succès tout à l'heure de ta startup, si tu n'es pas à un certain niveau de maturité par rapport à toi, ta connaissance de toi, etc.
Ouais. Bonne question. Il y a une notion que j'utilise énormément et qui va illustrer ça. Ça permettra de mettre la réponse en perspective, c'est la notion de facteur limitant.
Okay.
Donc ça vient de la chimie. En chimie, quand on met deux produits l'un avec l'autre pour faire une réaction, il y en a forcément un des deux qui va être le facteur limitant, c'est-à-dire quand il n'y aura plus de ce produit-là, ça va arrêter la réaction. Et il y a un ancien chimiste qui s'appelle Goldratt, qui est mort il y a une quinzaine d'années, qui a eu l'idée, qui est assez maligne, de se dire, mais en fait, peut-être que c'est pas juste en chimie que ça marche comme ça, peut-être que dans n'importe quel système, on a à un instant T un seul facteur limitant. Et il s'est mis à accompagner quelques boîtes, à regarder comment elles fonctionnaient et à essayer de trouver leur facteur limitant. Il est arrivé à la conclusion qu'un système donné, et donc en particulier une boîte donnée, à un instant T, n'a qu'un et un seul facteur limitant. Okay. Que tous les efforts qui sont consacrés à autre chose que ce facteur limitant sont en fait purement et simplement perdus, et qu'en revanche, les efforts qui sont consacrés à lever ce facteur limitant ont des effets juste exceptionnels.
Génial.
Moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse avec cette notion, enfin que je suis en tête chercheuse permanente dans les boîtes que j'accompagne de leurs facteurs limitants. Et je constate effectivement, enfin c'est vrai, une boîte à l'instant T n'a qu'un seul facteur limitant, c'est pas toujours le même, mais il n'y a pas 50 candidats à facteur limitant. Et je constate que dans une grande majorité des cas, le facteur limitant, c'est le patron, et que plus précisément, c'est la tête du patron. Et du coup, si on creuse après, le facteur limitant, non seulement c'est la tête du patron, mais ce sont ses peurs, ses blocages, ses névroses. Et du coup, oui, ça me paraît assez évident pour moi qu'une boîte est très vite bridée par la profondeur à laquelle le dirigeant a travaillé sur lui, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et quand je dis consciemment ou inconsciemment, quand je vois des entrepreneurs qui sont par exemple anciens sportifs de haut niveau, les anciens sportifs de haut niveau, qu'ils en soient conscients ou pas, ont beaucoup travaillé sur leur peur, ont beaucoup travaillé sur leur état d'esprit, leur détermination, et du coup, il se trouve qu'ils sont plutôt au large sur ces notions-là.
D'ailleurs, le coaching vient à la base du milieu sportif.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a énormément de passerelles qui ont été faites, et je vois bien que des entrepreneurs qui sont anciens sportifs de haut niveau, on va mettre du temps avant que ça se voit que c'est eux le facteur limitant de la boîte, on va mettre du temps avant que ça bride sévèrement la boîte.
D'accord.
Chez des entrepreneurs qui ont un parcours plus classique et donc en gros qui n'ont pas travaillé leur peur et leur mindset aussi fort que des sportifs de haut niveau, ça va venir très vite. Très très vite. Okay. Et donc, ça ne va pas forcément tuer la boîte, hein, mais ça va la ralentir, un truc de fou. Et ce sera invisible, hein, parce qu'il y aura toujours une bonne excuse, ce sera toujours bah oui, mais c'est mes clients qui ne sont pas comme je pensais, oui, mais c'est mon marché qui n'est pas comme je pensais, oui, mais c'est mon produit qui est plus loin à développer que ce que je pensais. Non. Tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, c'est qu'en fait, t'as pas osé la discuter avec des gens suffisamment tôt, quoi. Parce que juste, t'avais peur de te faire bâcher. Et ben ça. C'est... Ça te paraît un peu raccourci ou ça te paraît clair?
Ah oui, carrément. Non, mais c'est passionnant. Mais je vois que l'heure tourne, malheureusement. Je peux pas continuer sur cette discussion, mais c'est hyper intéressant. Je voulais juste terminer en clôturant par une question un peu plus personnelle, vu que toi, t'es aussi entrepreneur et que tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Où en es-tu un peu de ta quête personnelle? Est-ce que c'est un chemin sans fin, une sorte d'amélioration continue?
Oui, évidemment. Hein. Oui, c'est un chemin sans fin, amélioration continue sur le parcours que j'ai déjà fait. Dans mes bascules de ces 12 derniers mois, il y a le fait d'adopter une démarche systématique face aux peurs. C'est-à-dire que pendant mes 10 premières années de développement personnel délibéré, donc les 11 dernières années grosso modo, j'ai tourné autour de mes peurs, et puis il fallait que je fasse quand même un peu 14 tours autour de telle ou telle peur pour me dire « Ok, je m'y colle ». Mais j'avais quand même un peu à reculons et un peu contraint et forcé. Donc il fallait que la vie me tape franchement sur le museau pour que j'y aille. Mais j'y allais.
Tu faisais un peu l'autruche.
C'était cool. Un peu l'autruche. Non, je faisais pas l'autruche. C'est-à-dire que je reconnaissais le problème, mais je résistais beaucoup. D'accord. Je me disais un petit peu que ça valait le coup d'attendre longtemps, de trouver vraiment un chemin de moindre résistance, ou que peut-être qu'à force d'y réfléchir, la peur disparaîtrait tout seul. Et bon, la vie m'a montré que non, ça n'est jamais le cas. Par contre, à force d'y réfléchir, la peur devient, le problème devient tellement gros que t'as plus le choix, faut que tu t'y colles. Depuis un an, j'ai une pratique beaucoup plus délibérée où maintenant que à chaque fois je détecte une nouvelle peur, je me réjouis. Enfin, tu vois, je me lèche les babines. Je me dis, ah, ok. Et vraiment, tu vois, en mode, ok, c'est ça le prochain terrain de jeu et je m'en réjouis. Et c'est hyper cool. Et donc maintenant, effectivement, j'ai une cartouchière assez costaud pour aller tacler les différentes peurs. Donc quand je parle de peur, hein, c'était que concrètement, j'étais timide de la vente. Maintenant, je suis formateur en vente. Enfin, tu vois, c'est ce genre de dépassement-là. J'étais timide du management. Maintenant, j'ai embauché. Et je suis ravi, on a mis en place des techniques de management libéré qui me nourrissent un truc de fou. J'étais timide, j'avais peur de déranger les gens qui ne connaissaient pas ma valeur. Et j'ai organisé, pendant le confinement, j'ai co-organisé un sommet en ligne avec, on a eu 2500 personnes qui sont venues, j'ai fait venir des speakers que j'admire et que jamais j'aurais osé faire venir avant d'avoir fait péter ça, etc. Donc voilà, cette approche délibérée, je vois que ça accélère radicalement la cadence d'identification et d'explosion des peurs. C'est hyper jouissif à chaque fois. Ça me permet d'accéder à des strates de développement personnel un cran plus profond, un cran plus perché, un cran plus puissant aussi. Et c'est juste un cercle hyper vertueux.
C'est génial. Merci beaucoup. C'est une fin très positive, je pense, pour tous ceux qui nous écouteront et qui les inspirera, j'espère. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à toi, Lydia. Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.